Alors ma mère m'a donc éduqué par des ditons et des proverbes. Et un de ces ditons, on le trouve aussi en Allemagne, peut-être aussi en France dans le Nord, et au Danemark et en Néerlandais. Elle disait, quand j'étais petit garçon, souvent, les petits enfants et les disent la vérité. Quel est l'autre mot? Les petits enfants et les disent la vérité. Les ivrognes. Alors, il y a un homme très connu, et son nom veut dire pas aimer l'Église. Il n'aime pas l'Église. C'est un homme qui s'appelle Churchill. Churchill littéralement, donc en anglais, mais Churchill littéralement, ça veut dire malade de l'Église. Je ne sais pas s'il était malade de l'Église, mais Churchill était un grand homme d'État. Il était un bon peintre. Il était un écrivain aussi, un bon orateur. Et il aime aussi beaucoup le whisky et les cigares. Et parce qu'il aime le whisky de temps en temps, il buvait un petit peu trop. Et un jour, il y a une dame qui a dit, Monsieur Churchill, vous avez trop bu, vous êtes ivre. Et il a regardé la dame et dit, et vous êtes moche, et demain moi je suis sobre. Il a dit la vérité, mais pas directement. Et j'ai pensé à quelque chose, Dieu nous a donné quelque chose d'invisible pour dire la vérité. Et c'est quoi? Dieu nous a donné quelque chose, on ne le voit pas, mais c'est nécessaire pour dire la vérité. Et ça commence avec un C. Et c'est dans mon message d'aujourd'hui. C'est la conscience. La conscience morale. Alors le titre de mon message de ce matin, c'est « La volonté de Dieu avec notre conscience pour bien choisir ». Donc c'est dans la série « La volonté de Dieu ».« La volonté de Dieu avec notre conscience pour bien choisir ». Quand j'avais 22 ans, je me suis converti juste avant, quelques jours avant d'avoir 22 ans, je me suis dit, qu'est-ce que la Bible dit du mot conscience? C'était le premier mot qui me venait à l'esprit, qu'est-ce que la Bible dit? Et j'ai trouvé que dans le Nouveau Testament, on trouve le mot 30 fois. Intéressant. 30 fois. J'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes, ce qui concerne justement le mot conscience. Et j'ai compris en lisant la Bible que Dieu tient compte de notre conscience et du libre arbitre. On a besoin de la conscience, mais aussi du libre arbitre, autrement on deviendrait des robots. Imaginez-vous que Dieu doit appuyer sur notre épaule pour dire, dis-moi, tu m'aimes. Ça ne sera pas de cœur, mais ça vient, les robots peuvent faire ça. Donc Dieu nous a donné la conscience et le libre arbitre. Et il faut savoir aussi que à notre conscience est venue juste après la nouvelle naissance. Donc Dieu a renouvelé notre façon de voir les choses et aussi notre conscience. Et par exemple, j'étais chez le médecin il y a 2 jours, et quand je suis là, je prends toujours le Nouveau Testament avec. Parce que si on a rendez-vous à 11h, souvent c'est 11h30, il faut attendre. Donc je peux lire la Bible et je trouve justement un petit passage en 1 Timothée, chapitre 1. Et je vous le donne, ça parle justement de bonne conscience. 1 Timothée 1, versets 18 et 19. Et si tu veux le mettre, s'il te plaît, comme ça, vous pouvez le lire avec vous. Donc j'ai trouvé ça, je le savais déjà, mais voyez. Et c'est Paul qui parle à son enfant spirituel. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Pour le bon combat, on a besoin d'une bonne conscience. Donc là, on trouve ce mot, c'est intéressant. Alors, est-ce que vous avez une bonne définition de ce mot « conscience » ? J'en ai trouvé 15, 20 peut-être, quand on regarde sur Google, on trouve beaucoup de... Mais moi j'ai fait moi-même une définition bien plus courte, et ça revient à ça. La bonne conscience, c'est la notion de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Ça me suffit. Donc, la bonne nouvelle, c'est que nous avons une nouvelle conscience. Et donc, la définition, c'est la notion de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Elle est plus ou moins aveuglée, c'est les inconvertis. C'est les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont aussi une conscience, mais qui est aveugle, pour une grande partie. Et en grec, il y a un mot, donc, pour le mot conscience, c'est sunedo, S-U-N-E-I-D-O, sunedo. Et littéralement, ça veut dire voir en soi-même, voir en soi-même. Alors, j'ai quelques petits points à développer avec vous, justement, ce qui donne un éclairage sur le mot conscience. Et j'ai pensé ça pendant la nuit, quand je me suis réveillé. Quelle bénédiction d'avoir une conscience pour bien choisir. Et c'est une nécessité aussi. Donc la bénédiction, la nécessité d'avoir une bonne conscience pour faire des bons choix. Ça, c'est mon premier point. Et j'ai pensé à un homme dans l'Ancien Testament, un homme très connu, Josué. Et à la fin de sa vie, on trouve ça dans son livre, il a dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Beaucoup dépend de notre vie, qui nous voulons servir. C'est-à-dire, voulez-vous servir Dieu ou est-ce que vous voulez servir vous-même? Qui est dans le centre de votre vie? C'est Dieu ou vous-même? Et normalement, l'homme, sans Dieu, il pense d'abord à lui-même. Publicité, tout ce qui concerne le corps, manger, boire et tout le reste, mais pas Dieu. On n'a pas le temps pour Dieu. Plus tard. Mais on ne sait pas quand c'est plus tard. Et donc, il a posé cette question, et lui, il a dit, « Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Bien connue, cette phrase. Donc, on trouve ça en Josué 24. « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Je trouve que c'est merveilleux. Sa bonne conscience a déterminé le bon choix. Quand on a une bonne conscience, on peut faire de bons choix. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens, même chrétiens parfois, ils ont fait de mauvais choix. Pour leur mariage, l'homme a choisi une femme qui n'allait pas vraiment avec lui, ou le contraire. Aussi de mauvaises études, parfois un mauvais job, mauvaises habitudes. Beaucoup de choses dépendent de notre choix. On a besoin vraiment de Dieu. Et c'est pour cela, la volonté de Dieu avec notre conscience pour bien choisir. Il y a un deuxième point que je veux développer avec vous. Quelques causes d'une conscience déficiente avec de mauvais choix. Même un chrétien peut avoir une conscience qui est déficiente avec de mauvais choix. Deux exemples. Je prends un exemple du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Et du Nouveau Testament, j'ai pensé à une histoire que vous connaissez tous. C'est l'histoire du père qui a deux fils. Et le jeune fils, donc le jeune garçon, on l'appelle le fils prodigue. Et je pense par rébellion, le fils prodigue a été poussé à réclamer l'héritage de son père et à quitter la maison. On trouve ça en Luc 15, versets 12 et 13. Le plus jeune fils dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Donne-moi mon héritage. » Dans un sens, c'est très impoli parce que ça veut dire « tu peux crever, tu peux mourir ». C'est très impoli. Normalement, on donne héritage quand le père est mort, mais pas avant. Il l'a réclamé avant. Et le père leur partagea, parce qu'il avait un autre fils aussi, de son bien. Et j'ai pensé, quand je me suis réveillé ce matin, on ne trouve jamais dans cette histoire une maman. Pas de sœur. Il n'y a pas de fille, les garçons étaient tellement pris à la maison, ils n'avaient pas le temps pour fréquenter, avoir une copine. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui manque à ce garçon, il voulait voir le monde pour connaître peut-être un petit peu, d'avoir des copains et des copines. Et je me suis dit, alors là, c'est peut-être difficile pour lui, il voulait partir, mais il avait besoin d'argent. Donc, on raconte dans cette histoire, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, Il partit pour un pays éloigné. Il est allé en Belgique. Il habite en France, il est en Belgique. Je blague. Alors là, il a dissipé son bien en vivant dans la débauche. Si longtemps qu'on a beaucoup d'argent, on a beaucoup d'amis. C'est pas difficile dans le monde. Il avait des copains et copines partout. Et il a fait connaissance avec des femmes aussi qui n'étaient pas tellement célèbres. Peut-être aussi des prostituées. C'est son frère aîné qui a dit. Son fils qui est allé chez les prostituées. Et vous savez, j'ai pensé à ça ce matin aussi quand je me suis levé. Je dis même, il ne faut pas penser que c'est glorieux. Hein. Ces pauvres femmes qui sont devenues prostituées, je me suis occupé dans la relation d'aide de trois filles, trois femmes qui étaient prostituées. Et heureusement, elles se sont converties, mais ce n'est pas glorieux. Toutes ces filles, il y a un grand manque dans leur vie. Et bien, donc il a fait connaissance certainement avec des gens de mauvaise vie. Certainement il a mangé beaucoup et bu beaucoup. Peut-être il avait un Mercedes, c'est pas si ça existait dans ce temps. Mais il a gaspillé son argent. Si longtemps on a l'argent, on a des amis. Et à la fin, il devait quand même travailler. Et là, pour un garçon juif, de s'occuper des cochons, c'est pas fameux non plus. Parce que les cochons, c'était pas un animal aimé par les juifs. Et puis déjà, les cochons doivent manger quand même. Elles ne donnent même pas la nourriture pour les cochons. On ne donne même pas à ce garçon. Il n'avait pas à manger. Et un jour, donc, il s'est dit, quelle folie. C'est mon père, on a tout. Et moi, ici, regarde-moi. Il est rentré en lui-même. Et ça, c'est une chose merveilleuse. Donc, il a pensé un petit peu. Il est parti, je crois, et je l'ai mis ça sur ma feuille. Peut-être c'était le train-train à la maison. Tradition, toujours la même chose. Même s'il était une bonne famille. Et je connais des bonnes familles. J'ai entendu ça dans les histoires. Souvent, dans les bonnes familles, il y a des hommes et des femmes qui sont partis pour devenir missionnaires. Parce qu'ils ne voulaient pas avoir une vie facile. Ils voulaient vraiment vivre pour Dieu, avoir un idéal et être aimé par Dieu et partager cet amour avec les autres. Et lui, il en avait marre, mais il ne connaissait pas le Seigneur, j'ai l'impression. Donc, le train-train, l'impatience, l'indépendance, la rébellion. Combien de jeunes aujourd'hui vivent comme ça? La rébellion. Pas seulement les jeunes aussi, je pense. On m'a dit qu'en France, il y a un esprit de rébellion. C'est possible. Mais je crois que c'est aussi en Hollande, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre. Esprit de rébellion contre tout ce qui est autorité. Mais je pense que c'est difficile aujourd'hui d'être policier. Parce qu'ils sont les premiers qui attrapent. Ce n'est pas le premier ministre qui va attraper des cailloux. C'est difficile aussi pour les enseignants. J'ai une amie avec moi, Josiane, enseignante. Ma femme était aussi dans l'enseignement. Elle est très contente de ne plus l'être. Parce que les enfants, il y a 50 ans, c'était bien différent que les enfants d'aujourd'hui. Et je crois que les papas et les mamans, ils ont besoin de nos prières. C'est pour cela que ma femme s'occupe de Déborah, des femmes qui prient, des jeunes femmes et moins jeunes, qui prient pour les enfants et les jeunes. Et moi, je dis en péril, ce n'est pas seulement les enfants et les jeunes, mais les papas et les mamans, ils ont besoin de prières. Parce que c'est difficile de bien éduquer ces enfants aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Alors, pauvre papa d'avoir un enfant, un jeune qui est parti avec son héritage, et il est revenu, il n'avait plus rien. Et le papa, il était quand même merveilleux dans cette histoire. Il y a aussi, pas seulement la rébellion du fils prodigue, mais il y a aussi l'histoire de David. David, il avait l'envie sexuelle qui a poussé David à l'adultère avec Bathsheba. Vous connaissez cette histoire aussi. Normalement, David devait être à la guerre avec les soldats. Mais il se trouve dans son palais, sur le toit, il regarde en bas, il voit une fille qui est en train de se baigner. Et puis les hormones commencent à marcher, comme les femmes, comme c'est les femmes, comme c'est les hommes. Et puis, ce qui a suivi, c'était pas bon. Il voulait avoir cette femme, parce qu'il était le roi en plus, donc il dit pourquoi pas, on peut avoir ça, hein, quand on était au sommet. Donc, l'envie sexuelle a poussé David à l'adultère. Et il avait dans son palais un homme comme un conseiller. Il s'appelle Nathan, c'est un prophète. Et Dieu a révélé quelque chose à ce prophète, ce qui concerne David. Et il a raconté une petite histoire à David. Il dit, David, il y avait un homme qui était riche. Il avait des brebis. Et il avait tout un groupe de brebis. Et puis un jour, il voulait donner une fête pour ses amis. Et il a pris la brebis d'un pauvre homme. Il avait seulement une brebis. Et il l'a présentée à ses amis pour un repas. Et David, il s'est enflammé. Il dit, cet homme, il mérite la mort. Et Nathan, il dit, toi, tu es cet homme. Et là, il a compris, David. C'est lui qui était coupable. C'est pas facile d'être prophète. Mais il a dit, et donc dans cette histoire, nous voyons un petit peu aussi la conscience de David n'a pas parlé. Donc l'envie sexuelle, souvent, faut soit que nous sommes maîtres de nos hormones, ou les hormones deviennent maîtres de nous. Sache-le. J'ai un autre point, c'est le troisième. Quelques remèdes pour guérir une conscience déficiente. Et je pense, pour le garçon qui était donc le fils prodigue, le regret et la repentance du fils et le pardon du père a guéri son cœur. Le regret et la repentance. Et vous trouvez ça en Luc 15, versets 18 et 20. Le jeune fils dit, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, heureusement, ce ne sont pas des œufs. Le jeune fils dit, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le garçon, il a changé. Il s'est repenti vraiment. Et puis le père, il attendait, moi je crois, chaque jour son fils. Et il est venu. Aussi la repentance de David, on n'a pas le temps, mais quand on lit Psaume 51, versets 3 et 4, ça donne bien la réponse, ce qui se passe dans la conscience de David et dans son cœur. Il implore le pardon de Dieu, il l'a reçu, il s'est repenti. Après l'adultère avec Bathsheba. Pas seulement qu'il a eu l'adultère, mais il a aussi tué le mari. Comme ça, il a pensé peut-être, il n'a pas de mari, je peux faire ce que je veux. C'est pour cacher un petit peu ce qui se passe. Je me souviens comme petit garçon, que quand moi j'étais petit garçon à la maison, il y avait encore des encriers. Et mon frère qui était juste en face de moi, on était en train de faire le devoir. Et on se chemaillait un petit peu, et un jour l'encrier est tombé sur la nappe de la table. Et ma mère est venue à la maison, parce qu'elle était partie. Et puis on a mis des journaux dessus, comme ça ma mère ne voyait pas. Et ma mère dit, maintenant c'est l'heure de manger. J'ai dit, mais pas encore maman, on va attendre. Et puis l'encre s'est bien répondu. C'est pour cacher nos fautes qu'on fait ça. Mais un jour donc, il faut enlever les journaux, et là... On veut cacher toujours ses fautes. Et je crois que mon frère et mon père et moi, on a bien reçu quelque chose. Alors juste, je vais vous raconter une histoire, quelque chose qu'on vient de voir, Beryl et moi, à la maison, par une chaîne chrétienne. Une histoire vraie, d'une jeune femme, policière. Récemment, sur une chaîne de télévision chrétienne, nous avons vu une jeune femme policière. Elle s'appelle Amber. Amber. Guiguer, se trouvant au tribunal pour un meurtre qu'elle avait commis le 6 septembre, en se trompant de porte. Par erreur, elle est entrée chez un voisin au lieu d'entrer chez elle. Voyant un homme qui se trouve là, elle a tiré sur lui et l'a tué sur le coup pensant que c'était un cambrioleur. Au tribunal, nous avons été frappés par le témoignage du jeune frère de la victime. Nous l'avons vu. Il a pardonné cette jeune femme parlant de l'amour et du pardon de Jésus. À la fin, il a demandé au juge la permission d'embrasser la jeune femme meurtrière en témoignant de son amour et de son pardon pour elle, pardon de Jésus. Et il a invité cette jeune femme à recevoir Jésus comme son sauveur, pour le faire. Tout le monde dans la salle du tribunal a applaudi. Quel témoignage bouleversant. Elle a quand même reçu 5 ans de prison. Elle était fatiguée. Son appartement était un étage au-dessus. Même situation. Elle s'est trompée de porte. Elle a vu, le gars était juste en train de manger de la glace. Il ne faisait rien. Il dit, hey. Elle était fatiguée, elle était policière. Elle a tué. Mais le frère de ce garçon, donc, il a pardonné cette femme, il a pardonné Jésus. J'ai lu encore hier, j'ai regardé pour moi-même, pour vérifier. Et ça, c'est bizarre. C'est le juge, c'est arrivé aux États-Unis, cette histoire. Le juge, dans ce tribunal, il a offert une Bible à cette dame. Et là, on a critiqué parce que c'est le prosélytisme. Je ne vois pas en France qu'un juge va offrir une Bible à quelqu'un qui est condamné. Donc c'est une histoire intéressante. Maintenant, 4e point. Comment pouvons-nous garder une bonne conscience? Et avant d'en parler, ça fait plaisir à mon ami. Merci beaucoup. Je ne vais pas l'oublier cette fois. Et maintenant, j'ai bonne conscience. Alléluia. Comment pouvons-nous garder une bonne conscience? Ça, c'est ma question. Et j'ai trouvé quelques petits points. Pour ceux qui le veulent, et quand je peux, je vais vous envoyer mes notes. Cette fois, j'ai peut-être travaillé 10 à 15 à 20 heures sur ce message. Parce qu'ils voulaient vraiment savoir ce que veut dire la conscience. Et j'avais beaucoup, et j'ai rétréci. Ce n'est pas que je n'avais pas assez, mais j'avais trop. Maintenant, comment pouvons-nous garder une bonne conscience? D'abord, par le regret, la repentance et le pardon de Dieu, par le sang de Jésus. Première chose. Par le regret, la repentance et le pardon de Dieu. Heureusement que le Seigneur est là, pour nous pardonner, pour nous donner un cœur pur. Deuxièmement, et j'ai pensé à David aussi, par la maîtrise de soi venant du Saint-Esprit. La maîtrise de soi, c'est le 9e aspect du fruit de l'Esprit, en Galates 5. Et je crois que ça, c'est l'aspect le plus difficile, d'être maître de soi jusqu'à la fin de sa vie. Pas se laisser entraîner par ses penchants, par ses hormones, par les choses du monde. Troisième chose, par la sagesse de Dieu et le discernement. Et c'est souvent ça, ma prière, Seigneur, donne-moi de la sagesse, ta sagesse. Ton discernement, combien on en a besoin. Avant toute chose, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Quatrièmement, par la protection de Dieu. Attention, chers amis, frères et sœurs, attention au lavage de cerveau par les médias. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend à la radio, à la télévision. Notre fille Christine a fait des études en psychologie, mais aussi en journaliste. Elle est devenue journaliste. Elle dit, papa, ne crois pas tout ce que tu vois et tout ce qu'on te dit. Elle m'a averti souvent. J'ai dit, mais c'est comme ça, Christine. Mais pas du tout, elle dit. Fais attention. Mais j'ai dit, mais c'est dans un livre. Et elle dit, ce livre est écrit par qui? Alors, j'ai dit le nom. Il dit, après, est-ce que tu as vu? Il y a 10 ans plus tard, il dit le contraire dans un autre livre. Attention, ce que tu lis, ce que tu vois, ça s'appelle le lavage de cerveau. Un autre point, par l'amour pour Dieu avant toute chose, l'amour pour Dieu. Ça c'est le premier commandement, d'aimer Dieu et son prochain après le deuxième commandement. Si on faisait ça vraiment, le monde serait un autre lieu. Seigneur, je t'aime avant toute chose. Merci pour l'échange Jacques, c'était de bon sens ce matin, merveilleux. Je ne dis pas cela autrement, mais c'était bon. Un autre, par les choix selon Dieu. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. D'abord, aimez Dieu, après servir. On l'aime, on le sert parce qu'on l'aime. Il y a quelque chose d'autre. Maintenant, je vais vous donner quelques expériences personnelles de bons choix selon ma conscience à moi. D'abord, au travail. Comme pasteur, j'ai vécu certaines choses parfois douloureuses. Comme pasteur, j'ai choisi de ne pas bénir un mariage un jour. Cela s'est produit un jour dans mon église locale, c'est à Tourcoing, où j'ai refusé de faire un service de bénédiction de mariage d'une jeune femme chrétienne, d'origine sicilienne. D'origine, elle était italienne. Avec un jeune homme non chrétien qui ne croyait même pas dans l'existence de Dieu. Et cette jeune femme chrétienne, elle amenait beaucoup d'autres jeunes justement à l'église, garçons et filles qui sont venus par elle. Un jour, elle a fait connaissance dans un centre aéré d'un garçon merveilleux qui était beau, mais il n'était pas chrétien, il ne croyait même pas en Dieu. Ma conscience ne permettait pas de faire un service de bénédiction pour elle. Car Dieu ne le permet pas. La Bible est claire à ce sujet, 2 Corinthiens 6, verset 14. J'aime bien qu'on le voit. Parce qu'il y a des chrétiens qui posent des problèmes à ce sujet. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles, les incroyants, sous un joug étranger. Pas de mariage entre chrétiens et incroyants. Dieu dit non. Et ma conscience disait non. Peut-être c'est facile pour vous le dire quand vous n'êtes pas dans la situation d'un pasteur, mais pour moi ce n'était pas facile. On a discuté et prié avec elle pendant 6 mois. Elle ne voulait pas changer. Malgré donc tout ce qu'on a dit et prière et tout cela, malgré cela, la jeune femme a incité et elle a influencé un groupe de chrétiens dans l'église qui, par sentiment, pas par la foi, mais par sentiment, a soutenu la jeune femme et n'a jamais accepté mon refus de bénir le mariage de cette jeune femme chrétienne. Résultat, cela a provoqué une division très pénible de notre église, avec des résultats qu'elle s'est mariée simplement à la mairie. Ça crée des divisions parce qu'il y a des chrétiens qui viennent, si longtemps qu'il y a des beaux chants, des petits messages très gentils, il ne faut pas déranger trop. Alors là, quand il y a une question comme ça sur le mariage de chrétiens et de non-chrétiens, ils ne sont pas d'accord parce qu'ils sont entraînés par leurs sentiments, pas par la foi. Pas parce que Dieu dit. Vous comprenez? Qui est plus important, la foi en Dieu ou nos sentiments? De nouveau, c'est la conscience. Plus tard, j'ai appris du père de la jeune femme, je connaissais bien son père aussi, et sa maman, qu'en Sicile, une femme pas mariée à l'église est considérée comme une prostituée. Une fille qui n'est pas mariée à l'église est une prostituée. En Sicile. Et ça, je ne savais pas. J'ai eu l'occasion de parler avec d'autres pasteurs à ce sujet plus tard, et ils m'ont affirmé qu'ils auraient agi de la même façon que moi, et cela m'a consolé et encouragé. Je n'étais pas le seul, autrement. Mais ce n'est pas que je ne voulais pas au début, je voulais bien l'aider, mais Dieu dit non. Et ma conscience dit non. Je dis, tu as ta conscience, moi j'ai ma conscience, et la Bible dit non. Et ce n'est pas facile, vous savez. J'ai un autre exemple de suivre sa conscience. Un petit exemple. Dans la vie quotidienne, j'ai eu une expérience récente dans un magasin où je me suis trompé en mettant le prix d'un kilo de pois conférence moins cher sur un kilo de pois commis plus cher. Parce que nous aimons beaucoup les pois conférence. Les pois commis, je veux dire. Mais donc, commis et conférence, ça commence avec les mêmes lettres presque. Donc je me suis trompé. Heureusement, rapidement, j'ai fait un bon choix en changeant l'étiquette. C'était 2 € plus cher. Mais pour 2 €, j'ai eu la conscience tranquille. C'est ça que j'ai mis sur ma feuille. Et pour ceux qui vont recevoir, donc, vous allez recevoir mes notes, c'est en rouge. Les notes, pour la première fois dans ma vie, j'ai mis les histoires en rouge. Dernier point. Je crois que Satan nous tente dans la grande et dans les petites choses. Satan, c'est l'adversaire de Dieu, et s'il peut nous enfoncer et s'il peut nous faire mal, il le fait souvent dans notre conscience. Il a été créé, Satan, par Dieu comme un ange de lumière. Vous trouvez cette histoire en Ézéchiel et en Ésaïe, chapitre 14 et 28. Mais par un mauvais choix, Satan, il est devenu un ange de ténèbres, le diable. À savoir, très important frères et sœurs, à savoir que Dieu n'a pas d'opposé. le diable n'est pas l'opposé de Dieu, parce qu'il est une créature. Satan est une créature créée par Dieu. Dieu n'a pas d'opposé. Dieu est plus fort. On le chante, est-ce qu'on le croit? Notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est majestueux. On a chanté des chants ce matin merveilleux à la gloire de Dieu. Satan, il est une créature de Dieu. Il a été créé par Dieu. Mais il a fait un mauvais choix. Et il est devenu diable. Ça veut dire celui qui dit de mauvaises choses, qui nous enfonce. En conclusion, nous avons reçu le Saint-Esprit. Quand on s'est converti, nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous, qui nous donne la direction de Dieu dans toutes les situations de notre vie, de vivre une vie de victoire. Dieu veut qu'on vive une vie de victoire, pas une vie facile. Ma vie n'était pas facile, mais j'ai eu une vie de victoire. Même pour 2 €, qui me donne une conscience tranquille. Souvent dans les petites choses, il faut faire attention, pas des grandes choses, mais des petites choses parfois. En recevant la direction par la parole de Dieu, nous pouvons savoir ce que Dieu attend de nous et bien choisir pour garder la conscience tranquille et en paix. Je veux le redire encore une fois. En recevant la direction par la parole de Dieu, nous pouvons savoir ce que Dieu attend de nous et nous pouvons bien choisir pour garder la conscience tranquille et en paix. En pratique, comment ça marche? Je crois que c'est bien de dire régulièrement « Que ferait Jésus à ma place ?» Vous pouvez le dire après moi. Que ferait Jésus à ma place? C'est bien de le dire de temps en temps. Que ferait Jésus à ma place? Encore une fois. Que ferait Jésus à ma place? De cette façon, vous pouvez être sûr que votre Père Céleste vous dirigera. Je vous souhaite une bonne semaine avec une conscience tranquille. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci. Je veux prier avec vous. Seigneur, ce matin, nous sommes heureux d'être en ta présence. Tu connais notre vie de chaque jour. C'est bien d'être ensemble ici le dimanche matin en paix. Mais je demande vraiment, Seigneur, que tu nous montres cette semaine comment avoir une bonne conscience pour faire de bons choix. Dirige-nous par ta parole et par le Saint-Esprit. Et de poser cette question, mais que ferait Jésus à ma place? Seigneur, tu m'as aidé souvent. Tu m'as guidé et tu m'as protégé. Et je demande maintenant ce matin pour mes frères et sœurs de les protéger, de les bénir abondamment, de les bénir, Seigneur, dans leur cœur, dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. De bénir, Seigneur, et guérir ceux qui sont malades, ceux qui sont fatigués. Tu es le même hier et aujourd'hui, Jésus, tu n'as pas changé. Et je prononce sur vous tous la bénédiction de Dieu. Que la bénédiction de Dieu vous enrichit et vous donne la paix et une bonne conscience. Soyez bénis. Amen. Amen.